Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue. Deux interviews et puis deux films de Corée du Sud. C'est ainsi qu'on pourrait résumer cette émission de Cinérama. Les deux interviews, eh bien, c'est celle de Nabil Ben Yadir, le réalisateur de Animals, et puis celle de Thomas Salvador, le réalisateur de La Montagne. Et les films de Corée du Sud, eh bien, c'est vous qui les avez vus. Et toi, Manu, eh bien, tu as vu
le nouveau film de Hong Sang-soo, La Romancière, le film Et le Heureux Hasard.
Et puis toi, tu as vu un film dans un autre genre.
Un peu plus sanglant, c'est Project Wolf Hunting de Kim Hong-sun.
Et puis tu nous parleras alors très rapidement, mais de Titanic, qui est déjà sorti depuis le 8 février.
Et qui vaut grandement le détour dans cette copie absolument spectaculaire.
Mais nous commençons avec Nabil Ben Yadir, qui revient sur un crime homophobe qui avait secoué la Belgique. C'est Animals, et c'est la première interview de cette émission Cinérama.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
En 2012, un horrible fait divers secoue la Belgique. Hissan Jarfi, un jeune homme homosexuel, est retrouvé mort après avoir été torturé pendant des heures. Ses assassins sont arrêtés, jugés et écopent d'une lourde peine de prison pour meurtre après que la circonstance aggravante d'homophobie ait été retenue, une première dans l'histoire de la justice belge. À la base, la simple et sordide histoire d'un jeune homme qui sort d'un bar gay près de Liège et croise la route de quatre personnes alcoolisées qui vont déchaîner contre lui leur violence en le torturant. Le réalisateur Nabil Ben Yadir, à qui l'on doit le très engagé La Marche, revient sur ce meurtre, sur l'avant, le pendant et l'après, dans un film radical, parfois à la limite du supportable, mais extrêmement maîtrisé. Le format 4 tiers utilisé pour nous faire adhérer au quotidien du personnage principal se transforme en écran de portable lorsque son agression commence. En effet, le réalisateur a donné aux comédiens non professionnels qui interprètent les agresseurs des téléphones pour qu'ils filment eux-mêmes les scènes d'agression semi-improvisées. Il en résulte une deuxième partie particulièrement éprouvante. Il n'y a pas d'explication dans Animal, pas de théorie, juste le constat de l'homophobie ordinaire et de ses dérives. Ne vous laissez pas décourager par la bande-annonce sanglante, les scènes de violence sont finalement assez courtes. Et Animal, c'est également une belle performance de l'acteur Soufiane Chila, qui interprète le rôle principal. On écoute tout de suite le réalisateur Nabil Ben Yadir, ainsi que le père de la victime Hassan Jarfi, au micro de Cinérama.
C'est beau quand même. Arrête. Tu trouves quelqu'un.
T'es toujours tout seul. Un beau garçon comme toi.
Ouais, c'est moi, t'es où?
Toujours pas là, ton ami?
Pas encore.
Il s'appelle comment?
Thomas.
Tu le connais d'où?
Boulot.
C'est un peu spécial quand même. Un collègue. Le jour de mon anniversaire.
Ça t'embête, maman?
Réveille-toi, Brahim. Jamais ça va arriver que ton mec vienne ici et que tout le monde trouve ça normal. Jamais, tu le sais. Vis ta vie, respecte-nous.
Réfléchis bien à ce que tu vas faire.
Nabil Ben Yadir, dans le film Animal, vous questionnez la notion de monstre au travers d'une mise en scène assez audacieuse, hein, qui suit d'abord le personnage principal, avant de suivre l'un de ses meurtriers et de nous faire entrer dans son intimité. Est-ce qu'il existe une bonne façon au cinéma de représenter les monstres?
C'était important de voir qu'un monstre, c'est pas un mec de 2 mètres qui a des dents comme Dracula et qui a des yeux rouges et qui va manger les êtres humains. C'est-à-dire un monstre peut, à un moment donné dans sa vie, être considéré aussi comme un ange. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu ce mec-là, personne ne comprenait comment il avait pu basculer. C'est quand même lui qui lui a donné les derniers coups. Donc c'est lui qui l'achève, entre guillemets. Même si, je le rappelle, il est mort de froid, ils auraient pu le sauver. Ils avaient le projet de revenir pour brûler son corps, pour qu'on ne retrouve pas les empreintes. Donc c'est tout ça qui fait que, justement, tu te poses la question de la monstruosité dans la normalité. C'est quoi ton lendemain d'un assassinat, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Comment est-ce que ça change? Comment est-ce que tu changes? Comment est-ce que ton cerveau n'accepte pas ce que tu as fait? Et comment tu es condamné de toute manière, comme tu as condamné la personne qui l'a fait. Je trouvais ça intéressant de montrer la naissance d'un monstre. Parce que dans dans les quatre profils, lui, c'était la personne dont personne pouvait imaginer qu'il puisse aller jusque-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Les autres sont irrécupérables.
Parlez-nous des différents formats d'images utilisés qui donnent un côté très immersif au film et qui nous rendent, nous, spectateurs, quasiment actifs, comme si on participait à cette violence.
Mon but à moi, c'était d'approcher le maximum le réel. Parce que c'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire, les gens vont dire, ouais, mais c'est hyper violent. Pourtant, il n'y a pas de crâne qui explose, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coup de couteau, on ne voit pas la branche rentrer d'arbre. Mais en fait, ce qui gêne, c'est le côté réel. C'est-à-dire, en fait, on nous dit, il n'y a pas de cinéma là, il n'y a pas de réalisateur, c'est les acteurs qui prennent le pouvoir. Sauf que moi, je pense que c'est le cinéma 2.0, c'est le cinéma que personne ne veut voir, c'est le cinéma underground, c'est les gens qui se filment, c'est les gens qui démocratisent la fabrication d'un film, c'est ça qui est intéressant.
Tu faisais quoi alors là ? Qu'est-ce que tu foutais devant ce bar ? Toi, tu nous embrouilles, mon vieux, ça se voit.
Quoi ?
T'es pédé ou pas ? Ouais. Tu prends dans le cul ?
Eh.
Un bout de t'es pédé.
Le titre du film Animal vient d'une déclaration de l'un des accusés qui a déclaré pendant le procès « On n'est pas des animaux », avec une faute de français assez évidente, une faute que vous choisissez de mettre en avant pour en faire le titre du film. Est-ce que c'est une façon de pointer du doigt le manque d'éducation, d'en faire le réel responsable finalement de cet événement dramatique ?
Caricaturer un monstre est la pire des choses. C'est ce qu'a fait le cinéma américain, c'est ce qu'a fait tout ça. Moi, on ne parle pas de cinéma, là, on parle de réel. Donc c'est encore une démarche qui est vraiment différente. Et pour moi, ce qui est intéressant, ce que raconte Animal, c'est comment est-ce qu'une société peut créer des monstres. Alors que, vous savez, quand ça se passe loin de chez nous, on va se dire dans un pays africain, un pays arabe, ils vont dire ah, c'est là-bas, c'est ici. On est en Europe, avec des gens qui ont eu le droit à la même éducation, en tout cas au niveau de l'école, comment ça se fait qu'on peut... basculer très vite et devenir un assassin, alors que peut-être rien ne le prédestinait. Mais pour moi, c'était important de ne pas justement tomber dans la caricature. Après, une personne qui veut s'identifier à un assassin, c'est irrécupérable. Pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est de continuer à s'imaginer ce que le protagoniste a fait à Brahim et le vivre avec lui. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on peut basculer. En fait, ça raconte le basculement, finalement.
Allez, souris, t'es filmé !
Hassan Jarfi, vous êtes le père de Hissan Jarfi, qui a été donc assassiné en 2012. Ce film raconte ses derniers instants. Comment s'est passée votre rencontre avec Nabil Ben Yadir ?
Il est venu vers moi, il m'a dit « Je suis Nabil Ben Yadir ». Tout de suite, ah, c'est vous, les barons ? Il m'a dit « Oui ». Il m'a dit « Voilà ». J'ai assisté au procès, j'ai envie de faire un film sur Hissan. Je lui ai dit, oui, mais vous allez montrer quoi ? Il m'a dit, ce qui est arrivé à votre fils, ce qui est arrivé à Hissan, la violence. Je lui ai dit, ben, pour moi, il n'y a aucun souci, carte blanche.
Mange
l'herbe,
fais-le,
c'est chaud !
Donne ta gueule !
Donne ta gueule !
Vous avez créé la fondation Hissan Jarfi qui lutte contre l'homophobie. Vous participez à la promotion du film Animal. Vous pensez que le cinéma peut être un outil pédagogique ?
Ce n'est pas un film comique. On ne va pas le voir pour passer un bon moment au cinéma. On va le voir pour une raison citoyenne, pour une cause. Donc c'est un petit peu un engagement qu'on prend déjà en acceptant d'aller voir le film. Les homophobes, ils n'ont rien à voir dans le film, parce qu'ils ne vont pas passer un bon moment. Mais les personnes qui veulent changer la société vont voir ce film-là. Alors c'est un outil, et ce serait malheureux de ne pas pouvoir en profiter. Donc pour moi, déjà sans le film, l'histoire de mon gamin est douloureuse, elle est douloureuse chaque jour. Le film est là, pour un petit peu nous consoler, quelque part. Vous n'êtes pas les seuls à pleurer, on est là avec vous. C'est comme ça que je ressens les choses.
C'était Nabil Ben Yadir, le réalisateur de Animals, et puis le père de la victime dont il est question dans ce long métrage, qui est en salle depuis le 15 février. Quand Aung San Suu sort des films, il y a toujours Manu pour les voir et les chroniquer, donner envie d'y aller. Et c'est encore une histoire de réalisateur pour La Romancière, le film et l'heureux hasard.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
À peine digéré la sortie en 2022 d'Introduction et de Juste sous vos yeux, Aung San Suu dégaine son 27e long métrage. La Romancière, le film et le heureux hasard fait écho, enfin pour le titre français, hein, au récent succès du beau film de Ryusuke Hamaguchi, Conte du hasard et autres fantaisies. Alors, affiliation hein, évidente en apparence sous influence romérienne n'est pourtant qu'un leurre. Le cinéma de Hamaguchi, contrairement à ce qu'indique son titre, ne laisse rien au hasard. Tout est extrêmement construit et verrouillé au service d'un scénario très écrit. Alors tout le contraire de la méthode Aung San Suu, hein, qui malgré son admiration pour l'auteur du Rayon Vert, lorgne davantage du côté de Godard pour ses méthodes de travail attachées à l'improvisation et donc à l'imprévu. Son nouveau film le prouve, déambulation erratique d'une romancière découpée en trois segments de durée disparate. Alors le récit se déroule dans la banlieue de Séoul, étrangement vidée de ses figurants, instaurant d'emblée une atmosphère volontairement artificielle. Aung San Suu part souvent de situations d'ailleurs factices pour y injecter du réel par la simple puissance formelle de son cinéma. Alors Jun-hee, romancière de renom, hein, rend visite à une amie libraire, perdue de vue, qui était elle-même écrivaine, mais le temps passant, hein, elle a perdu le désir d'écrire, alors sans que cela la rende triste, bien au contraire. Ensuite, Jun-hee va croiser la route d'un réalisateur et son épouse, et par effet de ricochet, faire la connaissance d'une jeune actrice retirée du métier, Kil-soo, à qui elle propose de réaliser un film ensemble.
"선생님, 우리 영화는..."
La construction dramaturgique du film est d'une simplicité élémentaire, formant une boucle puisque le final est un retour à la bibliothèque. Le dispositif formel du coréen est toujours le même, des longs plans fixes, des zooms n'ayant aucune valeur esthétique mais qui n'en restent pas moins singuliers dans ce qu'ils cherchent à signifier, des décors dénudés et des dialogues toujours à triple sens, ponctués de longs silences où les gestes aussi en disent parfois très longs. Alors la mise en scène en partant d'un point de départ conceptuel d'une grande banalité, la visite d'un personnage à un autre, ne recherche rien d'autre que de s'approcher au plus près du réel, de traquer la réalité des sentiments, d'observer sans tricher ces personnages toujours mis à égalité dans le plan. En s'interdisant les champs contre champs, hein, filmant les scènes dans leur continuité, le cinéaste invite le spectateur à regarder activement les protagonistes. Alors le film s'empêche tout effet de montage avec une telle économie de moyens dans sa forme, à la fois réfléchie et spontanée, animée d'une idée obsessionnelle de ne pas différencier le cinéma de la vie. Alors rien de nouveau sous le soleil, hein, sous le soleil levant, saupoudré de soju. Allez-vous me dire, de film en film, Aung San Suu affine une méthode, hein, des petits principes présents dès son premier long, marque vraiment des grands cinéastes. Alors La Romancière aborde de manière frontale l'écriture et le mécanisme interne, souvent hasardeux, qui mène au désir même de la création. Placé sous une double lecture méta, Aung San Suu alors déroule une réflexion sur le cinéma comme processus artistique soumis à des impératifs économiques, affirmant plus que jamais à travers le personnage de l'écrivaine, son indépendance et puis sa volonté de faire ce qu'il veut quand il veut. Elle remet d'ailleurs brillamment en place le cinéaste soumis à des diktats commerciaux qui a refusé d'adapter un de ses romans. En miroir, il montre une actrice, hein, toujours la magnifique Kim Min-hee, qui a tourné le dos au succès. Elle va néanmoins accepter de tourner un petit film improvisé et intime, hein, d'ailleurs sans argent, avec La Romancière. Cette association, seulement motivée par l'envie de la rencontre, peut se lire comme une profession de foi. La Romancière, le film et l'heureux hasard, hein, confirme le talent d'un cinéaste qui n'a jamais paru aussi serein et apaisé, eh bien, avant le prochain, qui s'appelle Tag.
Eh bien, on te retrouvera pour le prochain. Restons en Corée du Sud, mais allons maintenant dans l'épouvante, l'histoire d'un monstre qui se réveille. C'est Project Wolf Hunting.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Des détenus coréens arrêtés aux Philippines vont être extradés vers le port de Busan à bord d'un gigantesque cargo.
Les forces de l'ordre ont sécurisé un navire de près de 58 000 tonnes, un colosse des mers, le Frontier Titan.
Après The Sadness, il y a très peu de temps, hein, l'Asie voit à nouveau très très rouge, hein, la sortie du sud-coréen projet Wolf Hunting, une sortie toujours sous l'égide de SC Distribution. Alors on dit que l'homme est un loup pour l'homme, et bien il ne vous reste plus qu'à regarder ce film pour comprendre le sens caché de cette maxime et de la façon la plus organique qui soit. Le film de Kim Gong-sun met en scène la dérive d'un cargo transportant de dangereux criminels de Manille à Busan qui sombre dans le chaos et voit la traversée se transformer en cauchemar car, et bien surprise, hein, les dangereux criminels arrivent à se libérer et à prendre le contrôle contrôle du bateau. Alors au déroulé de gueules, hein, toutes plus patibulaires les unes que les autres, s'enchaîne une première partie terriblement laborieuse, qui a du mal à trouver un point d'attache. Alors il faut dire que c'était bien mal parti, avec une scène d'introduction proprement ridicule qui essaie de fournir une logique à ce que l'on va voir. Donc sachez qu'il est choisi un voyage en cargo, car il est apparemment plus sûr qu'un avion, plus propice à subir un attentat à la bombe inopportun. Donc c'est amusant, car le film de Kim Hong-seung semble pourtant vouloir émuler le style des productions de Jerry Bruckheimer des années 90, Les Ailes de l'Enfer en particulier, ou du moins dans sa toute première partie, sauf qu'à la place d'un avion pénitentiaire, justement, il y a ce bateau. Et si on rajoute une pincée de film catastrophe avec une tempête surprise détectée juste après le départ du bateau, mais qui fera pas beaucoup de vagues, on est en plein vidéoclub des années 90.
Mais écoutez bien, je me fous complètement de vos droits, il n'y a aucune caméra ici. Si vous tenez à rentrer au bercail en un seul morceau, je vous conseille de ne pas vous faire remarquer. Soyez sage, les gars. Est-ce que l'un d'entre vous veut aller en Corée ? Ce bateau m'appartient maintenant.
Est-ce que vous savez piloter ce navire ?
Crevez tous, bande d'enfoirés !
Sûrement, mais lentement, trop lentement, car le rythme est terriblement inégal et le film ne justifie pas vraiment sa durée de 2 heures, Project Wolf Hunting bifurque vers ce qu'il semble tout entier célébrer, les excès des catégories 3 hongkongais, cette catégorie de films qui n'avait aucune limite dans leur représentation de la violence graphique, que le film soit un simple film d'action ou revendique un aspect un petit peu plus social. Alors au départ, le film semble franchement un peu vain, les gens s'entretuent souvent avec un sourire complice, ce qui l'éloigne beaucoup de la vraie ironie du film auquel il est un peu comparé à tort, et ce jusque sur son affiche française, le chef-d'œuvre Battle Royale de Kinji Fukasaku. Les méchants sont très très méchants et le réalisateur ne manque aucune occasion de souligner leur aspect vicieux. Ce qui est dommage car même si l'aspect bande dessinée est appréciable, mine de rien, on a forcément beaucoup moins d'empathie pour eux quand on doit suivre leur parcours dans lequel il est souvent question de vie et de mort. Par contre, pour les amateurs d'effets sanglants, c'est un festival d'effets pratiques qui font plaisir. Le sang coule à flot, éclabousse les tenues, recouvre les acteurs, retapisse absolument tous les murs et accessoires, et ce même si au bout du 14e égorgement ou du 27e éclatage de crâne, on a assez tôt fait de bâiller poliment. Non, là où le film devient enfin amusant et décolle véritablement, c'est au bout d'une heure, quand il opère un tournant, passant du film plus ou moins policier en huis clos à un film de survie où les gentils comme les méchants doivent tenir tête à un super tueur, fruit d'expérimentation médicale entre les travaux du docteur Frankenstein et ceux du docteur Mengele qui vient de se réveiller et qui traque tout le monde avec ses yeux cousus et sa vision thermique à la Predator. Là, le jeu de massacre devient un peu moins mécanique et un peu plus ludique, ce qui rend cette seconde heure de ce spectacle barbare un peu plus digeste, à défaut d'être de meilleur goût. Ce petit changement de registre et de paradigme fait au final la force de projet Wolf Hunting. Si les prémices étaient guère passionnantes et si l'aspect gore commençait sérieusement à tourner en rond dès une vingtaine de minutes, la mutation vers un spectacle plus tourné vers la science-fiction fantasmant un brin, les recoins les plus sombres de l'histoire matinée d'action, rend le tout plus sympathique et s'il ne réinvente jamais la roue, assure au moins de façon honnête et assume son côté cinéma d'exploitation.
Project Wolf Hunting est en salle depuis le 15 février. Là, on fait un petit retour en arrière pour parler d'un film qu'on avait complètement manqué. Et c'est dommage puisqu'on avait rencontré le réalisateur. C'est le film La Montagne, un Parisien en rupture avec le monde fait corps avec la montagne.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Est-ce que c'est en regardant Un Sommet ou est-ce que c'est en se fadant une énième réunion importante sur la conception d'un robot que Pierre, ingénieur parisien, qui se rend dans les Alpes pour son travail, décide d'y rester ? Le voilà irrésistiblement attiré par les montagnes. Alors dans les cimes, aux abords d'un refuge qui accueille un restaurant, il fait la rencontre de Léa, incarnée par Louise Bourgoin, toujours exquise, même en parka. Et plus tard, dans ses expéditions, il est attiré par des lueurs qui viennent de la montagne. Voilà ainsi résumé ce film. Alors c'est le 2e long métrage de Thomas Salvador qui joue, comme dans Vincent n'a pas d'écaille, le personnage principal de cette intrigue qui ne tient pas à grand chose. C'est un film d'ambiance, de sensation. Toute la mise en scène est tournée vers cela. Ce qu'il se passe pour Pierre, c'est qu'il n'a plus envie de redescendre. Il a laissé de côté toute sa vie, tournée vers la commodité, l'appartement, la cuisine équipée, son métier d'ingénieur, et ainsi de suite. Et au départ, la montagne lui résiste un peu, mais il l'expérimente et puis se fait aider d'un guide. Et plus ça va, plus le voilà qui part seul en expédition, comme s'il était dans son élément. La ville en contrebas n'est qu'une somme de points lumineux, semblable à une constellation lointaine. C'est toute la perspective qui est renversée. La montagne n'est pas un film de survival, mais reste un film d'aventure, une aventure alors un peu intérieure, mais aussi une petite aventure amoureuse. C'est un des regrets de ce scénario qui tient à peu de choses. Hein. Toutefois, eh bien, l'aventure laisse place au fantastique, comme lors de son précédent film, Tom n'a pas d'écailles, un surhomme qui voit ses forces décuplées au contact de l'eau. Eh bien, ici, Pierre va être confronté à un monde qui change, vacille, jusqu'à faire corps avec la montagne. Alors, on ne peut pas dévoiler la nature de l'élément fantastique qu'il faut se contenter d'admettre. L'entreprise du réalisateur-acteur tient en ce geste figurer une relation peu commune qui va permettre au personnage de renaître et peut-être de bien regarder ce qui peut lui arriver, comme bien, par exemple une histoire d'amour. Alors il y a de la métaphore dans l'air et dans les cimes. On va écouter le réalisateur Thomas Salvador que nous avons pu rencontrer.
Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade, du coup je sais pas trop quand je vais revenir.
Thomas Salvador, votre film s'ouvre avec, voilà, un ingénieur qui manipule un robot. La séquence suivante, quand il est happé par la montagne, on est en face d'un glacier qui a fondu. J'ai l'impression deux éléments qui sont un peu anxiogènes dans notre société actuelle, mais le film raconte totalement autre chose parce que du coup, c'est comme un parcours initiatique.
Y a des choses anxiogènes dans ce monde, c'est sûr, que j'ai mis un peu de côté, qui sont présents en creux dans le film. Et parce que je voulais renforcer le côté appel de la montagne pour le personnage, et puis sa nécessité de faire cet itinéraire, de changer, de voir autrement, de changer lui-même. Ça démarre avec, il y a du bruit, il a une cuisine, on le voit chez lui, c'est assez gris, c'est métallique. Et puis après, j'ai réalisé, après, une fois le film fini, qu'effectivement, il manipulait un robot. Qu'il est ingénieur en robotique et tout ça, évidemment, il s'en éloigne au long du film.
On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure, parce que là t'es vraiment en train de péter un câble.
Vous êtes alpiniste?
Oui.
Vous êtes pas sûr?
Si.
Par ailleurs, donc dans Vincent n'a pas d'écailles, votre précédent film, il y avait un élément fantastique qui arrivait très vite. Là, l'élément fantastique, au début, j'y ai pas cru. Et finalement, vous le faites arriver. Vous pouvez pas vous passer de cet élément fantastique dans vos films.
Faut croire. J'ai mis du temps à réaliser que j'aimais les films fantastiques, mais en fait, quelqu'un m'a fait remarquer que je citais toujours les mêmes cinéastes qui faisaient des films fantastiques. David Cronenberg, Dario Argento, John Carpenter. Alors, je fais des films dans lesquels je joue, dont les personnages sont très proches de moi, et en même temps, je suis quelqu'un de très pudique. Alors, ça peut sembler paradoxal. Et je pense que le fantastique est un moyen, et le cinéma, mais encore plus forte raison le fantastique, de dire des choses un peu, je dirais pas essentielles, mais oui, des choses intimes, des choses parfois universelles, mais aussi sans avoir recours à l'explication, à la psychologie. Et c'est vrai que moi, je cherche une forme d'économie dans mes films. Et je pense que naturellement, une économie narrative et que naturellement le fantastique permet d'aller un petit peu à l'essentiel. On va rien dévoiler, mais je peux donner un exemple. Il y a pas mal de plans dans le film où le personnage est au-dessus des nuages. Alors, il n'y a pas de clin d'œil qui dit « Ah, vous avez vu, il est au-dessus de la mêlée, au-dessus ». Mais inconsciemment, le spectateur, a accès à quelque chose de ce que vit le personnage. Mais voilà, et donc le choix du décor, de la montagne et la dimension fantastique permettent de prendre en charge des choses psychologiques, mais par l'action, par l'image. Quoi.
Tu vas où ?
En fait, je vais assez loin.
Salut Pierre, c'est Léa. Je voulais prendre de tes nouvelles.
Alors, en termes de scénario et même de narration, d'ailleurs, le personnage se retrouve majoritairement quand même tout seul, puisqu'il a choisi la montagne. Ça, c'était un défi pour vous, c'est-à-dire, quoi montrer et comment ?
Il a choisi la montagne, mais la montagne l'a choisi aussi. C'est un personnage qui tourne le dos aux autres un temps. Alors, comme je l'ai dit, en creux, on peut imaginer tout ce qu'il a envie de fuir. Et en plus, le film a été écrit avant le Covid, mais après les confinements et tout, on a tous eu envie de partir et de laisser des trucs, du moins de laisser ce qu'on n'aimait pas, de se reposer la question de l'essentiel et du non-essentiel. Et donc, ce faisant, le personnage tourne le dos à la civilisation, s'éloigne, va plus haut, peut-être un peu trop loin, un peu trop haut, peut-être. Il va prendre le risque de disparaître, mais il a besoin, en tout cas, pour faire peau neuve, pour se retrouver, Je dis tout ça, le film, c'est pas un truc New Age de tout ça, mais c'est, il est question de ça. Il y a vraiment une dimension initiatique. Il a besoin de passer par l'étape de la solitude aussi. Ouais. Yeah!
Dernière question, Thomas Salvador. On a l'impression que c'est un personnage qui va vers la spontanéité, enfin, c'est-à-dire qu'on voilà, on le voit, qu'il regarde la montagne, il y va. Ensuite, bah, il y a des éboulements, il y va. Enfin, voilà, il voit quelqu'un. Alors, on ne sait pas comment il trouve ce guide, mais il le trouve. Enfin, voilà, c'est... Donc, il y a beaucoup de spontanéité chez ce personnage.
Oui, c'est important. C'est un personnage qui réapprend beaucoup de choses. Pour moi, il réapprend à regarder. À regarder autrement, à regarder vraiment, à prendre le temps. Il se réapproprie aussi son rapport au temps, à chercher son tempo, il se débarrasse de ce dont il a plus envie de faire, il se concentre sur ce qu'il a envie de faire. Et oui, il réapprend à vivre l'impulsion, à vivre le désir, à vivre tout court, j'ai envie de dire. Mais ce qu'on ne sait plus toujours très bien faire, ou du moins, il y a quand même beaucoup d'empêchements à vivre simplement toutes ces choses-là dans ce monde avec autant d'infos, autant de soucis qui nous éloignent un peu de nous et de l'homme, quoi, d'une forme de simplicité.
Il s'est passé quelque chose ?
Non, rien de spécial.
C'était Thomas Salvador, le réalisateur de La Montagne, un film qui est sorti déjà depuis début février. Il est dans le top 3 des films ayant réalisé le plus d'entrées au monde. Le film de James Cameron, Titanic, est ressorti le 8 février et a déjà réalisé 149 351 entrées. C'est quasiment autant que le dernier Night Shyamalan en 2 semaines.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Il en connaît le moindre rivet, n'est-ce pas, Thomas ?
C'est exact.
Votre bateau est une merveille, monsieur Andrews, vraiment.
Merci, Rose.
Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire d'un film comme Titanic. Hein. Donc 25 ans après, le monument de James Cameron fait son retour sur grand écran et vous serez bien en peine de pas en profiter, car sa nouvelle exploitation en 3D et copie 4K n'a rien d'un gadget, bien au contraire. Alors ce n'est pas la première fois que Cameron a travaillé la 3D sur son film. Il y a déjà une dizaine d'années, le film avait bénéficié du succès de la nouvelle 3D lancée par Avatar, du même James Cameron, pour replonger les spectateurs dans la triste nuit du 14 au 15 avril 1912. Les cyniques n'y verront qu'une course à l'argent, comme si, en ayant signé les deux plus gros succès populaires de tous les temps, Cameron en avait besoin. Non, il y a là la véritable expérience de cinéma et la communion que cela implique. Donc pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir en salle en 97, c'est-à-dire toute la nouvelle génération, il était dès lors possible d'en faire l'expérience. Et pour les vieux de la vieille comme moi qui étaient allés déjà plusieurs fois à l'époque, la promesse de la 3D était géniale. Loin d'un simple regonflage facile et rapide, Titanic a bénéficié d'une 3D splendide et particulièrement adaptée à sa mise en scène, étant donné l'usage régulier de courtes focales chez Cameron qui prennent bien sûr toute une dimension horrifique dans la seconde partie du film, celle du labyrinthe claustrophobique des couloirs immergés et de la course contre la montre et l'eau qui monte. La terreur est donc à son comble, l'expérience totale, et ça en est même déstabilisant tant il est besoin de se rappeler que le découpage du film n'a pas été pensé à la base pour la troisième dimension. Donc c'est un nouveau tour de force d'Iron Jim qui apporte pour la Saint-Valentin un beau coup de polish en 4K sont désormais classiques.
J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. J'ai de l'air dans mes poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer? Où je vais échouer? Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quel don on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Oh, tenez qu'un. Pour que chaque jour compte.
Bien dit, Jack.
Tout à fait.
Pour que ce jour compte.
Pour que ce jour compte.
Cette ressortie rappelle que le cinéma n'est pas une langue morte et l'éternel retour des grands films voit sa raison d'être dans leur éternelle pertinence. Titanic reste un monument, un chef-d'œuvre qui signa l'apothéose d'une certaine idée du cinéma classique à la fin du XXe siècle et qui embrassait tout entier le cinéma et les techniques de demain du cinéma du XXIe siècle. N'attendons pas qu'un iceberg vienne couler le cinéma, allons le célébrer encore et toujours.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec des films, et puis alors plus d'interviews, mais un blind test. Ce sera un blind test spécial Steven Spielberg, parce que tu vas nous parler de son dernier bijou.
Oui, bah, The Fableman, l'incontournable du mois, et j'ai envie de dire de l'année.
Peut-être. Et toi, Manu, deux films ?
Apache, et puis Domingo et la Brume.
À la semaine prochaine.
This is Cinerama.